Thierry, c'était pas la peine de venir en robe de princesse, c'est Les Misérables le film de la semaine.
Libéré! Délivré! Je m'ennuierai plus jamais!
Ouais, on va vraiment mettre Les Misérables en avant. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui descend dans la rue à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
En même temps,
oui,
on est dans la rue. Encore une semaine très forte avec un film très attendu, deux films très attendus. Cette semaine Thierry dans Certains les Machos.
Cette semaine on commence par un putain de carton, on commence par un film qui va être envoyé aux Oscars. Et une fois qu'il aura tout raflé parce qu'il va être finalement dans toutes les catégories, il va être envoyé aux Oscars interplanétaires et absolument tout gagné. On va devenir les maîtres de la galaxie. Il s'agit des Misérables de Ladjly.
Mais face à lui, un mastodonte, un gros dur, un tatoué, un vrai, ou pas, je sais pas, la Reine des Neiges, E2 Disney.
Ouais, bon, en gros, t'as juste regardé la taille du portefeuille avant de regarder si c'était vraiment un dur tatoué.
J'ai regardé les vues sur la story quand j'ai fait les hashtags, ça a été hallucinant.
Ce qui est assez marrant, c'est que la blancheur d'ailleurs de la neige que l'on voit dans le truc, ça m'a un petit peu éclaté les yeux. Ça m'a totalement ébloui, comme Les Éblouis, troisième film de cette sélection.
Et oui, avec Camille Cotin. Autre film drame plus dense, plus intérieur, Les Enfants d'Isadora.
On reste dans l'intime, on reste dans quelque chose d'étrange, avec un giallo britannique cette fois-ci.
Un gialling
Une fabrique, retour de Peter Strickland derrière la caméra.
Et enfin, le plus gros drame, je crois, de la semaine, c'est L'Épreuve de Force.
Le challenge.
La comédie française, Joyeuse Retraite, avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque. Spoiler alerte, on n'est pas resté jusqu'au bout. Mais combien de temps sommes-nous restés? Réponse à la fin de l'épisode. Ça commence maintenant.
Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Hey, les gars, soleil.
Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
Tu connais ça? Quand t'as volé un lion?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là!
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
Putain!
La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient, là!
Le film de la semaine et un des films de l'année sûrement, on verra ça dans le récap de l'année, mais Les Misérables de Ladjly, un film d'1h42 avec Damien Bonnard, Alexis Monetti, Djibril Didier Zonga, prix du jury à Cannes 2019, film sensation. Je suis avec les forces spéciales de Claque, donc Thierry que vous venez d'entendre, et Karl.
Salut.
C'était un film annoncé comme une sensation. Alors on va pas commencer par Thierry pour une fois, parce qu'il l'a déjà vu à Deauville, nous l'avait recommandé chaudement, mais il nous dira sa deuxième vue, peut-être que ça change quelque chose. C'est un film qui semblerait avoir remué le président. Karl, toi, comment tu ressors de la salle?
Ah ben, moi qui n'avais jamais entendu parler de banlieue avant, maintenant que je vois une fiction qui me le raconte, je vais faire quelque chose.
Tu vas y vivre? Tu vas t'y installer?
Ah certainement pas, je reste un bourgeois blanc, mais...
On suit les aventures de Stéphane, surnommé Pento, dans son premier jour à la BAC de Montfermeil. Dans ses deux premiers jours à la BAC de Montfermeil. Suite à des incidents, il va y avoir une bavure, puis la tension va monter jusqu'à devenir ingérable au bout de 48 heures. On a une montée de la violence et de la tension. Un western moderne, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film. Est-ce que tu l'as perçu cette tension-là ou tu restes sur le message « Oh, la banlieue, c'est quand même craignos ».
Ah non, parce que c'est aussi un film qui s'est demandé comment il serait un film, comment il travaillerait son montage, sa réal. Alors c'est pas mal de caméras portées qui peut avoir tendance à me gonfler, mais là, dans une situation... Alors en plus, on suit ce flic qui fait sa première journée dans une cité qu'il connaît pas, donc la désorientation fait partie de l'histoire. Bah en fait, ce qui me dérange en général, là j'avais déjà fait la différence entre les films sociétaux et les films sociaux, et là c'est un film social dans le sens où il montre le fonctionnement d'une micro-société, qui est cette cité, et les différents acteurs, chacun avec ses intérêts, chacun contrebalançant le pouvoir de l'autre, les flics, les médiateurs, les frères musulmans, et les jeunes qui n'ont rien à foutre, parce qu'en plus c'est vacances d'été, donc On va dire, ceux qui iraient à l'école ne peuvent même pas sécher, quoi. Donc faut gérer un peu tout ce monde-là et comment tout va s'agencer.
Oui, c'est ça. Il y a une affaire, donc on voit les mecs de la BAC qui tournent, qui font le tour des différentes, entre guillemets, autorités du coin, entre les médiateurs, qui sont un peu plus que médiateurs, visiblement. Le frère prêcheur.
Le frère musulman. Non, c'est pas les plus modérés. Hein.
Ouais.
En tout cas, de ce qu'on nous en montre, ils le sont. Donc en soi, le peu qu'on nous en montre, ça va. Bon, ils les intriguent pour faire la prière et tout, mais c'est pas non plus...
Ils viennent pour parler de religion, quoi que tu fasses, quoi.
Ça aurait pu être plus violent. C'est pour ça que je veux dire, là, bon...
Alors, par contre, ça te dit pas ils les transforment tous en terroristes. Mais ça reste des gars qui... Tu leur dis, j'ai un problème pratique, ils te répondent, Dieu veut ça.
Bref, on voit différentes autorités. On a aussi les mecs qui ont du business aussi, donc qui vont aider de leur côté. Donc, on a plusieurs formes, entre guillemets, de pouvoir, comme tu l'as dit, des contre-pouvoirs. Et on va voir là-dedans, on va sur le côté des flics, avec des flics qui sont humains, qui font des erreurs, et une pression aussi, et une incompréhension. Je trouve que le moment qui traduit le mieux le film, c'est un moment, alors c'est pas vraiment du spoil, parce que dans toute la promo qu'il y a eu, il y a un moment, il y a une histoire de lion volé. Et il faut retrouver le lion, et c'est un peu une affaire qui me le fait aux poudres. Donc c'est des gitans, c'est des Romanichel qui tiennent le film, et en gros, c'est les Lopez, quoi. Tu sais, c'est les vidéos Lopez, les mecs qui s'insultent par vidéo YouTube. Hein. Vous savez, c'est ces mecs-là à qui on a volé un lion et qui vont engrainer la cité. Donc, ils vont voir les médiateurs, ils vont les engrainer. Et ils disent, putain, mais il est où le lion? Enfin, ils disent pas, il est où le lion? Ils disent, il est où Johnny? Et en fait, jusqu'à ce que les flics débarquent, en fait, les mecs, ils se chauffent sans que personne ait compris à un seul moment qu'ils parlaient d'un lion. Et donc, c'est des gens qui se chauffent, qui se parlent, mais qui se comprennent pas. Et ce dont parle le film, ce sont des Français, des gens qui habitent le même pays, mais qui se comprennent pas et qui se chauffent mutuellement. D'ailleurs, ça commence sur la Coupe du Monde. C'est tout le monde est content d'être français. En fait, tout le monde veut vivre dans le même lieu, mais c'est juste des mecs qui habitent ensemble au même endroit, mais qui se comprennent pas, quoi. Et cette tension, cette poudrière sur laquelle on est assis, et c'est une tension qui monte jusqu'à la fin, qui est ultra forte. Toi, ça, est-ce que ça t'a refait le même effet?
Quand je suis sorti du film la première fois, j'étais pas bien. Moi, j'ai tremblé pendant tout le générique sans trop pouvoir bouger. Bon, avec les gens qui faisaient en plus des standing ovations, des gens qui étaient en larmes autour de moi, je pense que je l'étais aussi. Il y avait Lajli en plus qui était là avec toute son équipe. Donc les gens se sont jetés sur lui pour lui faire des câlins. J'imagine que ça devait pas toujours être très agréable pour lui non plus parce que il y avait tout cette espèce de flot d'émotions qu'ils ont dû vivre en faisant le film et que là, ils le ressentaient également. Et en fait, j'appréhendais vraiment de revenir pas dans le sens où je pensais que le film me plairait pas une deuxième fois, mais dans le sens où les 20 dernières minutes de film sont une scène de violence extrêmement puissante et j'avais très peur de les revivre et j'avais très peur de revoir cette montée en tension et de le ressentir encore et aussi de me dire peut-être que ça va la désamorcer et là je sors une deuxième fois et je suis encore pas bien, je suis encore sous un choc, encore en train de me dire ces choses-là se passent, peuvent se passer régulièrement, peuvent se passer pour des raisons aussi idiotes que ça et putain on est totalement impuissant face à ça parce que ça nous montre aussi tout ce qui marche pas dans ce pays, la manière dont c'est géré par des autorités qui n'ont plus aucune autorité, qui n'ont plus aucune compétence, qui ne gèrent plus par la violence, mais d'un autre côté, sans violence, ils n'arriveront jamais à se faire respecter face à ce climat de délinquance. Du coup, c'est super bizarre et super étrange et super compliqué de trouver un juste milieu dans tout ça. Et c'est aussi, je trouve, ce que l'Algérie fait très bien. Je trouve que c'est très à charge contre la police, mais ça ne les enfonce pas non plus. Ça essaie de les comprendre, ça essaie de comprendre leur quotidien, et ça essaie de montrer aussi que ils sont pas nés comme ça, ils sont pas arrivés en mode on va défoncer des gens. Ils sont arrivés en mode à force de s'en être pris plein la gueule, ils se sont énormément endurcis. Il y en a un qui est devenu complètement con suite à ça, mais qui par contre est là quand il y a besoin de faire quelque chose et sera toujours là pour ses collègues et peut potentiellement faire des choses bien dans d'autres affaires. Mais en même temps, on nous montre que malgré tout, ça les déborde et que vu qu'ils savent plus parler aux jeunes, ils savent plus. Voilà, leur seule solution, c'est de leur taper sur la gueule parce que les mecs ils courent. Bon, certes, c'est pas très malin de faire un contrôle de police. Est-ce que c'est très malin de les frapper en retour quand on les réceptionne? Voilà, c'est plein de choses comme ça où on nous dit. Oui, voilà, ce que tu disais, c'est une tour de Babel en fait, immense. Cette cité de Montfermeil, les cités en général, enfin celles qui sont pas calmes en tout cas, et c'est très compliqué de reprendre le dialogue.
Oui, d'autant que c'est inspiré de vécu de ce qu'a vu Lajli, hein, puisque bon alors il y avait déjà un court métrage nommé Les Misérables, mais aussi il a fait des vidéos de Copwatch, donc de l'observation des flics dans les cités, du doc dans la rue. Il fait partie du collectif Courtragemé aussi. Il a pas participé directement à l'aide, mais oui, c'était il y a 20 ans. Mais non mais le filmer la banlieue, filmer Montfermeil, il connaît. C'est son lieu, c'est chez lui. En fait, c'est un film qui fait c'est oui. C'est tristement pas tant de la fiction que ça. Même si ça a été réarrangé pour faire un film, mais c'est criant de vérité. On va pas parler des prix parce que là ça veut plus dire grand chose. Moi je pense que c'est pas volé.
Non, ça fait du bien de voir un film qui gagne autant de prix et des prix publics. Bon, même si y a des réactions qui sont un peu disproportionnées, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Bah, un peu comme le président. T'as plein de gens qui disent que c'est sa caricature. Et quand tu leur parles deux minutes, ils sont jamais allés dans une cité, ils savent même pas comment c'est au quotidien. Mais ils pensent qu'on caricature et que non, c'est pas possible, ça peut pas se passer. Faudrait ouvrir les yeux. Et du coup, le fait que ce film ait autant de visibilité, donc pour l'instant, le prix du jury, c'est ça ? Non, prix du public ?
Prix du jury à Cannes.
Jury à Cannes et il a gagné le prix d'Ellen Roosevelt à Deauville. C'est pas démérité et ça permet surtout qu'aujourd'hui il y a une grosse distribution qui n'était pas du tout garantie. Les avant-premières ont été complètes, ils en ont même rajouté, elles ont toutes été complètes. Ça bouge. Ça a été le film qui a été le plus vu mercredi matin au Hall. C'est déjà hyper symbolique. Ça fait super plaisir de voir qu'un film comme ça, qui en plus du sujet qui pourrait aussi rebuter quand on va au cinéma pour se divertir, entre grands guillemets, est un vrai film. C'est pas un film misérabiliste, c'est pas un film social, c'est pas un Dardenne, c'est un vrai film de cinéma. Non mais c'est pas un film social en mode...
Justement, c'est pas un Dardenne.
J'enlèverai le film social. C'est pas juste un regard comme il souffle. Non, c'est un film de cinéma qui te raconte une intrigue, qui te raconte un truc et tu te dis en plus de ça, Lajli, si jamais il fait pas du film politique derrière, il a aussi les épaules pour être un bon cinéaste de thriller, de plein de choses. Donc c'est une graine de cinéaste de fou. Pour un premier long, le mec il te pond ça, tu fais... Voilà, donc c'est super chouette et super encourageant qu'il ait eu autant de prix, qu'autant de gens aillent le voir et j'espère qu'il va éclaté, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir le prix du public au César, s'il vous plaît.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué.
C'est pas la même violence, mais ça va être très compliqué. C'était un film que t'avais vu à Deauville. T'avais aussi vu à Deauville Knife and Skin, qu'on va pas voir pour des questions de temps et d'emploi du temps, et c'était compliqué. Je pourrais renvoyer à Deauville, est-ce que t'en as gardé un bon souvenir ou pas ?
C'était l'un des pires films que j'ai vu à Deauville, Knife and Skin.
Ok, très bien. Moi, je trouvais ça très joli, mais ça avait l'air un peu creux. Qu'est-ce que...
Les Misérables étant le meilleur, et je crois que je l'avais déjà dit quand j'avais fait le petit aparté. Je suis allé voir un festival du film indépendant américain, et mon film préféré était un film français.
Très bien.
Mais Knives and Skin, tu peux oublier. Hein. C'est joli en apparence, c'est très moche au fond.
Il y a certains films qui sont meilleurs en présentation PowerPoint. Ça arrive.
Les Misérables, une véritable, ouais, une bombe quoi. À voir absolument.
Bizarre ce soir, non ?
Pas plus que d'habitude.
J'entends une voix. Une voix ? Comment ça ? Courez vers la falaise !
Je vais m'envoler !
Non, je suis là !
Arendelle n'est plus en sécurité.
On se croyait libéré, délivré après la Reine des Neiges. Nous allons vers un autre monde dans La Reine des Neiges 2. La suite du méga carton Disney, Frozen 2 de Jennifer Lee et Chris Buck, qui étaient déjà aux manettes pour le premier. Le premier qui avait fait un petit 1,2 milliard de dollars de recettes. Voilà, un petit 5 millions d'entrées en France. Je ne sais pas combien de singles vendus, téléchargés avec Let It Go, Libéré, Délivré.
Au moins, les gamins vont pas chanter les chansons dessus, là. Hein. S'ils arrivent à rester éveillés jusqu'à la fin du deuxième couplet, c'est déjà bien.
Ce genre de moment où Céline Dion a dû se dire « Putain, heureusement que c'est pas moi qui l'ai chanté, parce que sinon les fans me demanderaient que je chantais plus que ça. »
Vous les avez entendus, nous avons réuni nos plus belles princesses pour cet épisode. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Et Karl.
Salut.
On l'a vu en VF, cette fois-ci. Il y a eu débat. D'ailleurs, il y a ces kiff-kiff 50-50. On était prêts même à le voir séparé, mais finalement tout le monde m'a rejoint à la VF. En voix française, nous avons Emile Lou Holmes pour Anna, Charlotte Hervieux pour Elsa qui remplace l'ancienne Reine des Neiges Anaïs Delva. Ça ne change pas beaucoup parce que franchement à la voix et au chant, j'ai pas senti énormément de changements, je sais pas vous. Et Danny Boone dans le rôle du bonhomme de neige Olaf. Oh joie. Comment avez-vous trouvé ce deuxième volet de la Reine des Neiges ?
Extrêmement quelconque, très très paresseux dans son ambition. En fait, ça m'a fait exactement le même aperçu que le premier, avec, comme tu l'as dit là, peut-être une trame en plus à suivre qui peut maintenir un semblant d'intérêt. J'ai découvert La Reine des Neiges cette semaine, parce que tu m'as un peu tanné en « Non, on va quand même aller le voir, on va quand même le faire, alors mettre La Reine des Neiges, tu mets qu'un film par semaine, gna gna gna. » J'ai metté La Reine des Neiges. Ça m'a indifféré à souhait, j'ai vraiment pas trouvé ça très bien, même autant dans l'animation que dans le scénar, que dans les dialogues, j'ai trouvé ça très plat et je me suis demandé, putain, mais comment ce truc-là a pu faire un tel carton? Par exemple, je sais pas, enfin, parce que c'est l'animation 3D qui a marché, quelques années avant, il y avait eu Réponse, c'était bien mieux. Et ça, je me suis pas senti attiré par ça, j'ai pas du tout accroché, je me dis, ouais, c'est un Disney mineur, comme ils en font de temps en temps, qui se regardent, qui est pas désagréable, mais dont on s'en fout. Et celui-là, c'est exactement pareil. Ça surfe sur le même truc. Alors là, du coup, on le voit en VF. J'ai vu le premier en VO il y a deux jours. Bon, ça apporte pas grand chose de plus. À part, à la grande limite, c'est con à dire, mais j'aime pas Danny Boone et je trouve ça insupportable qu'il fasse un perso. Mais d'un autre côté, au moins, il a une voix qui est tellement agaçante que ça colle au personnage. Je supporte pas Olaf. Mais j'ai trouvé que les gags tombaient à plat tout le temps, que ça marchait pas, que justement, les gags étant centrés sur Olaf, c'est souvent très mauvais. Enfin, ça marche pas, quoi.
C'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'occasions où il pourrait mourir et où il meurt pas. Moi le premier je le trouve correct, sans plus. Là je me suis assez ennuyé, surtout qu'on m'avait dit que l'histoire tournerait autour du royaume dans lequel elles vivent, qui aurait été construit sur un massacre avec des indiens. Et au départ on commence à voir le truc arriver, et en fait c'est expulsé, ils sont juste mal entendus au début, mais ils deviennent copains assez vite. Donc le potentiel film américain qui parle d'une nation construite sur le massacre d'une autre nation, qui aurait pu être courageux, intéressant, bon bah c'est expédié en 5-10 minutes. Et après, bon, on va suivre différents esprits. Comme ça, vous pouvez voir quelle peluche vous avez acheté à vos gamins à Noël. Et voilà.
Mais tout est expédié en 5-10 minutes, j'ai l'impression, dans ce film interminable.
Ouais, ça, les personnages ont un objectif pendant tout le film. T'as Elsa qui veut... Elle entend une voix qui l'appelle au loin, elle veut la retrouver. T'as Anna qui veut protéger sa sœur. Mais tu n'as pas de pouvoir, c'est trop dangereux. Mais je veux t'aider. Mais non, mais si, mais non, mais si, mais non, mais si. 1h30. T'as Christophe qui veut demander Anna en mariage et qui, à chaque fois, c'est le mauvais moment jusqu'au moment où, à la fin, où c'est le bon moment. Voilà. Et t'as Olaf qui est insupportable du début à la fin.
Quel beau résumé. Je n'aurais pas fait mieux. Oui, elles partent à la recherche de la forêt magique. Parce qu'en fait, le pitch de départ, c'est quand même... Elsa entend des voix. Du coup, elle déclenche la fureur des éléments parce qu'elle entend une voix. Mais gratuitement, quoi. C'est vraiment...
Ouais, elle chante une chanson et à un moment, elle chante une note tellement haute que les esprits de la forêt se réveillent. Voilà, et le film commence.
Voilà, voilà. Et du coup, il faut partir libérer une forêt bercée par quatre éléments, plus un cinquième. Oh là là, ça ne nous rappelle absolument rien. Et là, il y a Milev Jovovich qui débarque dans un taxi volant.
C'est ça, putain. Olaf, il peut se déguiser en n'importe qui. Ils auraient pu faire une blague où il se déguise en Lilou, tu vois. Au moins, à la limite, on aurait trouvé qu'il y avait un intérêt référentiel, quoi.
Ou en Hank de Avatar.
Alors, certes, c'est un film quelconque, assez mineur et assez plat, mais je l'ai trouvé du coup meilleur que le premier, qui était en dessous de tout, je trouve. Les chansons sont pas terribles. La chanson star, là, de l'autre bout du monde, où, j'ai l'impression que c'était Let It Go, mais avec le frein à main.
On peut pas refaire Let It Go, mais fais quand même une chanson sur à quel point t'as envie de partir et de tout laisser tomber en chantant très très fort. Mais c'est pas Let It Go, hein. Du coup, on la compose moins bien pour que ça ressemble pas trop.
Faut pas non plus oublier qu'on est resté pendant le générique de fin, parce que là il y a le morceau qui n'est donc pas chanté par le personnage de la Reine des Neiges, mais juste un chanteur, on n'a pas eu le temps de regarder qui c'était, mais un chanteur pop, je dirais, actuel. Et c'était bien plus agréable, et je me disais, putain, il y avait vachement de corps à ce moment-là, et c'est dommage que ça ait pas eu cette gueule-là, quoi, au final. Bon, pourquoi pas.
Il y a quand même, on parle chanson, il y a quand même un seul passage où je me suis régalé, c'est qu'il y a une, bah c'est une parodie de clip d'amour des années 80-90.
Ça, c'était vraiment un passage. En fait, c'est ça, il y a des moments qui, de temps en temps, vont, je vais quand même te dire, ok, là, je passe un moment sympa. Ce passage-là était vraiment chouette, le passage où il y a Christophe qui chante sa chanson d'amour parce qu'il est, il est triste, c'est super drôle.
Avec les reines derrière lui qui forment Queen. Ça, c'est bien. Comme quand les meupêtres font Bohemian Rhapsody, ça n'a tellement aucun sens. Et puis ça sort tellement de nulle part, t'es juste dans le siège en faisant « D'accord, pourquoi j'ai l'impression d'être bloqué sur M6 à 4h du matin en 2003 ?»
Surtout que ça sort de nulle part. Tu vois, quand on parle de la parodie des princesses, par exemple, dans
Ralph.
Dans Ralph, ça aurait clairement pu être ce genre de moment où justement, tout à coup, ils refont le clip. Sauf que, par exemple, le mec chiale sur son sort et t'as les reines derrière qui apparaissent pour dire « Tu veux arrêter de chialer ?» Dans une chanson. Enfin, moi, ça me faisait penser à ça. Je me disais, attends, ils sont en train de parodier leur propre truc au final. Et ils s'en moquent. Et c'est vrai que ça aurait plus eu lieu dans une parodie que là où ça sort totalement du ton. Mais c'est super cool à voir. Hein.
Bon, bref, La Reine des Neiges 2. Du réchauffé. Hein, c'est triste à dire.
Ça fait 1,2 milliard, ça veut dire à La Reine des Neiges 3. Hein, donc du réchauffé sur du réchauffé sur du réchauffé, quoi.
Non, je sais même pas si tu peux juste foutre ton gamin 1h30 devant ça. En vrai. Est-ce qu'il va pas se faire chier?
Ah, parce que c'est long, c'est 1h44 là, ouais, c'est ça. Enfin, c'est. Ouais, c'est.
Parce que le premier encore, ça peut intéresser un gamin, mais là, celui-là, juste voir Elsa courir dans la forêt pendant une heure.
Non, parce que j'aime bien, c'est les phases de sketch, c'est genre, hop, ça déclenche un truc, hop, ça déclenche un machin, hop, il y a les mecs de la forêt qui sortent, mais on ne sait pas trop qui c'est. Hop.
Et comme à chaque fois qu'Elsa veut aider sa sœur, elle la fout dans la merde. Non, ne me suis pas, c'est trop dangereux. Tiens, je te mets sur un bateau qui va tomber au pif le long de cette falaise et tu vas arriver au milieu de l'antre des géants de pierre qui veulent nous tuer. Merci Elsa de m'avoir protégé.
Sinon, ce que j'aime bien, c'est qu'ils partent en aventure pendant plusieurs jours quand même. Hein. Et pendant ce temps-là, tout le peuple d'Arendelle, donc, qui a quitté le village précipitamment, est resté sur la colline, sans abri ni rière, en plein automne.
Avec ordre, personne ne rentre tant que nous ne sommes pas rentrés. Non, si on meurt là-bas, personne n'a droit à notre pays, c'est clair.
Mais même pas se réfugier dans la forêt, que dalle, quoi. Tu restes en plein vent et t'attends, quoi.
En haut d'une falaise, allez jouer, les enfants.
Worst queen ever.
Et en solidarité avec les animaux, nous ne porterons pas de vêtements dans ce froid glacial.
Donc, bon courage à tous les parents qui vont être obligés de subir ça.
Je m'inquiète pour maman.
Bah, tu pries pour elle. Saint-Esprit l'aide à guérir.
T'y crois, toi?
Ça se passe bien dans ton couvent? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la. Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines!
Pauvre fille!
Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eue votre fille, ça me préoccupe.
On va prier sur elle.
Jésus, fais que les parents ne rentrent plus jamais.
Et Mathieu ne plus puer du cul.
Tu vois pas dans quel état ils te mettent?
Tu arrêtes maintenant!
Lâche-moi, toi!
Dans les bois, pendant que le diable y est pas, il nous mangerait. Comme Jésus est là, il nous mangera pas.
Ça m'a fait délirer.
Si tu me demandes de bêler, ça sera un coup de boule.
Les éblouis de Sarah Succo, premier long métrage, avec Camille Cotin, Jean-Pierre Daroussin dans le rôle du berger. Et Céleste Brunkel dans le rôle principal, le rôle de Camille, une jeune fille de 13 ans, qui voit peu à peu sa famille se faire embrigader par une communauté religieuse. À forte tendance sectaire.
Sans déconner, forte tendance sectaire.
Ouais. Il manquait plus que Didier Bourdin dans le fond.
Je suis avec les deux grenouilles de bénitier de Clac, Hera.
Salut Thomas.
Et Karl.
Ouais, bien sûr, c'est comme ça que tout le monde me connaît, ouais.
Une histoire très forte, donc réalisée et coécrite par Sarah Succo, inspirée de son histoire personnelle, puisqu'elle a vu sa famille basculer peu à peu dans ces dérives-là. Un film très fort, un film assez prenant, moi-même j'ai pas trop... Enfin là on décolle un peu détendu, mais c'est l'histoire de relâcher la pression. Avec Céleste Brunkel, je le répète, la jeune fille qu'on voit quasiment sur tous les plans, parce qu'on va voir de son point de vue, et qui nous fait une prestation remarquable. Moi elle m'a retourné cette petite... Et j'ai été fortement angoissé tout au long du film. C'est peut-être le film qui m'a fait le plus peur, le plus flipper, le plus badé. Midsommar à côté, c'était vraiment de la rigolade.
Ouais, assez. C'est vrai que c'est angoissant à souhait, tant c'est vérace et tant c'est possible. Et de voir cette famille se laisser embrigader à travers les communautés religieuses au point où... Il n'existe que le Dieu, la parole divine, mais qui est menée, qui est incarnée par juste un gourou, en fait, qui peut dire tout ce qu'il veut, on le croira de toute façon. C'est assez fort, mais au point de mettre, donc au point de laisser leur famille de côté, de ne plus s'occuper de leurs enfants, de négliger, en fait, complètement leur famille, et de devenir eux-mêmes complètement fous, parce qu'eux-mêmes ont besoin qu'ils redeviennent un peu des enfants, en fait, à travers cette secte, parce qu'ils sont commandés par un gourou, donc en fait, il n'y a plus de parentalité, ils s'oublient, et c'est que dans la négligence. Et c'est flippant, donc la salle a beaucoup ri tout le long du film, parce que c'est... Bah en fait, c'est pas marrant, c'est des rires nerveux. On rigole parce qu'on se dit non, quand même, ils abusent.
Ça dépend qui.
Ok, sauf Karl. Mais sinon, globalement, il y a des trucs qui peuvent être un peu marrants, mais c'est surtout, on rit en se disant merde, non, mais c'est pas possible que ça aille jusque-là. Et si, il y a des communautés et des espaces où ça se passe vraiment comme ça. C'est assez flippant.
Oui, ben les sacs, c'est pas bien. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur le film. Ne vous laissez pas embrigader dans une secte. Donc moi, ouais, je me suis attaché sur ces moments marrants où le mec il arrive et comme il s'appelle le berger, bah t'as tous les fidèles qui commencent à bêler comme des cons. Ça, j'ai beaucoup ri. En plus, ils le font pas 3 secondes, hein. ça dure un long moment. T'as les chansons complètement débiles. À part ça, les sexes, c'est pas bien.
Ouais, c'est un peu plus que ça, Karl.
C'est un portrait. Après, je vois ce que tu veux dire. Tu vas pas retirer une morale autre que juste, ouais, c'est pas bien, vous laissez pas embrigader. Et quand vous commencez à détecter ça chez des gens, allez voir la police parce que ça peut mal finir. Oui, mais c'est un portrait et c'est une description de comment ça se passe à l'intérieur.
Puis c'est croissant. Au début, la famille vient juste comme ça parce qu'ils s'impliquent dans la vie associative. Et puis ça commence par aider à donner un repas. Puis après, ils vont suivre la messe. Et puis après, ils participent un peu plus. Et puis après, ils portent la croix. Et puis après, petit à petit, ça va un peu plus. Et puis ils se mettent à prier à table alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Et c'est un enchaînement. Et petit à petit, et plus ça va, et plus on est enfermé.
Non, mais c'est bien foutu. C'est juste que... J'ai rien vu que j'avais pas déjà vu dans des documentaires ou dans des témoignages sur les sectes.
Ouais, c'est vrai que... Alors, moi j'ai trouvé le film assez sympa à voir dans le sens où on ne s'ennuie pas. En tout cas, moi je me suis facilement laissé prendre et le rythme est plutôt bien soutenu, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas vraiment. Effectivement, ça va crescendo. Mais par contre, la mise en scène le souligne très peu. Je trouve qu'on est face à une mise en scène qui est quand même très légère, qui n'est pas très belle.
Parce que tout ça n'est pas beau.
Oui, tout ça n'est pas beau, mais au lieu la mise en scène ne l'appuie pas ni dans son côté dégueulasse, ni dans son côté beau. Enfin, en fait, la mise en scène ne sert à rien, ne souligne pas le scénario, ne souligne pas l'action du film, en fait. Elle est là, c'est une mise en scène de film français classique, il n'y a rien de spécial à en tirer. Oui, c'est pas beau, mais par exemple, la première séquence s'ouvre quand même sur une danse de ruban de cette jeune fille. La danse de ruban, c'est très beau quand c'est très bien filmé. Là, c'était naze. C'était bon. C'était un petit spectacle, mais ça aurait pu être tellement plus joli. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu d'effort de ce côté-là ou d'effort un peu de côté le son. Le son est foireux.
Le son foireux dans un film français, c'est pas la première fois. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Cette scène d'ouverture où elle est dans une école de cirque au départ et elle fait un numéro de voltige. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin. Elle est dans les airs, elle est libre, hein, c'est beau, il y a de la lumière. Et plus ça va, ben on lui interdit le cirque au bout d'un moment, parce que franchement, le cirque, ça met en avant le corps. Et puis, il y a des numéros de clowns, alors on rigole, et puis on rigole de la religion, et ça, c'est pas bien. Donc, il y a cet enferme-là, et puis le film s'assombrit. Plus on avance, et plus il fait sombre, et plus c'est terne.
Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire, effectivement, il y a une légère différence. Dans ce cas-là, j'aurais bien voulu plus d'éclat au départ, si tu veux, parce que je trouvais que c'était très, très... Enfin, c'était pas beaucoup appuyé, quoi.
Ouais, mais parce que la vie avant n'est pas super non plus. La mère est au chômage, elle va pas très bien non plus. Le père, il se fait chier dans un lycée et il est complètement soumis à sa femme parce que le mec, on le traite de lâche plusieurs fois dans le film et il fait « Ok, tout va bien.
» C'est magnifique ces personnages, tu peux juste tourner vers eux et faire « Toi, t'es un lâche, pourquoi tu m'adresses la parole ?» Et il fait « Ah oui, c'est vrai, pourquoi j'ai essayé d'avoir une idée ?»
Ouais, c'est vrai que là-dessus, les personnages sont plutôt bien définis, ils restent bien dans leur cadre, dans leur caractère. Je trouvais que ça manquait un peu de contraste, de relief. Je trouvais ça très, très simpliste, en fait. C'est un peu le reproche que je ferais au film, c'est que c'est très intéressant comme sujet traité, mais ça reste très, très en surface. Je sais pas, il n'y a pas de charisme, en fait. Alors qu'on a quand même des bons acteurs, ça joue bien. Mais pour le coup, le gourou, quand tu t'attends à avoir un gourou, tu t'attends à avoir justement un mec qui dégage quelque chose. Là, Daroussin, bon, mec lambda, après c'est sûrement voulu, justement.
Mais justement, c'est le mec sympa, tu le soupçonnes pas. Normalement, le gourou, tu fais ah, putain, c'est le gourou, c'est le méchant de l'histoire. Non, là, c'est un mec sympa, il est bonhomme et tout, il fait. Et puis, en fait, non, il dirige. Fais comme tu veux, mais le meilleur choix, c'est ça, c'est ce que je te dis.
Ouais, je suis même pas sûr que le mec s'en rende compte en vrai. Je pense que la plupart des gourous se rendent même pas compte de l'excès dans lequel ils sont et qu'ils abusent. Et là, effectivement, ouais, c'est le mec sympa, c'est ce qui fait que c'est aussi discret, mais. Ouais, je sais pas, ouais, c'était peut-être extrêmement réaliste au point où je trouvais que ça manquait de... un peu de relief, ça partait pas partout quoi.
Sur les persos, peut-être parce que c'est la réalisatrice et la scénariste qui racontent sa propre histoire, mais y a pas mal de moments où on voit Camille plus tomber dans le camp de la secte ou défendre la secte par intérêt vers ses parents, tout ça. Mais ça, c'est des trucs qui sont peut-être clairs pour elle qui l'a vécu, mais nous on a besoin d'un minimum de contexte. T'as dit 25 fois que tu voulais te barrer de la secte, là t'as l'occasion rêvée, pourquoi tu fais pas là tout de suite?
Ben, parce que quand t'as 12 ans, c'est compliqué.
Alors, elle grandit, ça se passe sur plusieurs années.
Oui, alors elle a 14 ans à la fin du film, waouh. C'est pas beaucoup mieux.
Non, mais ça reste des changements compliqués, et juste dire elle est jeune, ça justifie pas tout. Hein.
Ben, c'est la grande sœur, et elle a après ses petits frères et sœurs, et ils sont 4 dans la fratrie. Tu peux pas te barrer comme ça, parce qu'eux, ils sont en danger aussi. Elle reste pour les protéger comme elle peut.
Alors qu'elle dit qu'elle veut se barrer tout le temps.
Oui, mais elle peut pas se barrer avec eux, c'est compliqué. Après, elle peut pas se pointer chez son petit copain avec ses trois frères et sœurs, si tu veux, c'est compliqué.
Elle le fait. Elle le fait complètement.
Elle le fait une après-midi.
Non, mais surtout, elle va chez ses grands-parents qui, eux, lui disent « voilà tout ce qu'on a reçu ». Le grand-père qui lui dit « ouais, la petite n'y est pour rien ». Et il voudrait qu'elle puisse partir de la secte, mais elle, elle a peur qu'il arrive quelque chose à ses parents aussi. Elle a peur, c'est normal, pour un enfant, le plus gros truc catastrophique, c'est d'être privé de ses parents, parce que ça veut dire que tu meurs. C'est concrètement, t'as plus de bouffe, tu vis plus, tu peux mourir. Donc ça encore, je conçois, tu vois, qu'elle n'ose pas sortir de la secte ou qu'elle n'ose pas, enfin, qu'elle puisse rien faire, parce que quand t'as grandi dedans et que tu vois les choses, tu te dis, bah mes parents, ils ont raison. T'es petit, quoi.
C'était une boutade au départ, mais je le pensais vraiment. Je trouve que ça m'a beaucoup pris le côté engrenage. Je trouve qu'il était plus présent que dans Midsommar, et ça, du coup, parce qu'il y a eu un côté réaliste aussi. C'était pas un truc fantastique. Et puis on voyait pas le scénario arriver. On sait comment ça se finit quand on est dans une secte, mais le scénario était pas montré à l'avance 2 heures avant que ça arrive. Les Éblouis, je trouvais ce film brillant. Voilà, tout simplement.
Bah oui, évidemment.
Non, mais on a déjà échappé à Divin. Hein. Sois contente.
Oui, j'appartiens à une secte de clones. Je dois faire des jeux de mots dans chaque apparition.
Je sens la tiédeur de mon propre corps.
Je vais y arriver.
Et je réalise que depuis la mort de mes enfants, ces mains ont été marquées à jamais par la tristesse. Comme j'aurais aimé que cet horrible accident fut transformé en beauté.
Les enfants d'Isadora, un film de Damien Manivelle, avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Marie Caridi, Elsa Wollaston. La danseuse Isadora Duncan perd ses enfants dans des conditions tragiques, et de son chagrin et de son deuil, elle en tire une chorégraphie. Une chorégraphie d'adieu, un solo. On ne va absolument pas filmer ça. On va suivre 4 femmes qui vont percevoir cette chorégraphie et travailler autour, mais un siècle après, aujourd'hui.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Isadora Duncan a écrit une biographie, qui est d'ailleurs lue dans la première partie du film. Tu pourrais te dire qu'on peut s'inspirer de ça, justement, pour augmenter le récit, pour ajouter des éléments. Sauf que Damien Manivelle s'est inspiré d'une seule chose pour faire son film, un pas de danse. Donc il ne mêle pas son récit à tout ce qu'il peut y avoir autour d'Isadora Duncan, à part par quelques bribes qu'on voit de temps en temps. Et le problème, c'est qu'il décide de ne rien rajouter de plus. Donc on va voir ces personnes qui vivent un petit peu leur vie avant de s'adonner à tenter le pas de danse de la mer. C'est tout.
Là, oui, on va suivre... En fait, ça va être en 3 tableaux d'une demi-heure à peu près, interminables chacun. Avec la première, ça va être une jeune femme qui va être inspirée par la biographie et qui va décider de danser ce pas. Donc elle va aller chercher la danse, elle va lire. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, si c'est une partition ou autre. Donc ça, c'est assez curieux. Comment est-ce qu'on écrit une chorégraphie sur le papier, c'est une curiosité, donc ça on apprend. Donc on se dit, ça va être quelque chose sur les coulisses de la danse. On la voit qu'il le prépare. Et la seule fois qu'on l'entendra, ça sera quand elle lira dans sa tête la biographie. La suivante, ça va être une chorégraphe et une jeune fille qui vont travailler la chorégraphie pour un spectacle. Ça va être plus didactique. Ici, la jeune fille va servir à expliquer la danse, à expliquer un peu les gestes ou autre. Et à la fin, c'est une des spectatrices, donc une vieille dame, qui va rentrer chez elle pendant... 20 minutes, elle va mettre 20 minutes non, à rentrer.
C'est ça, on peut dire que c'est une vieille dame qui, touchée par ce qu'elle a vu, veut rentrer chez elle pour reproduire la danse parce que ça la touche profondément. Sauf que voilà, on va nous raconter pendant une demi-heure comment est-ce qu'elle rentre chez elle et combien de temps ça prend.
Voilà.
Non mais c'est juste pour nous montrer que la danse va la toucher, qu'elle va refaire le geste même si ah oui. Elle a des problèmes de coordination à cause de l'âge. Voilà.
Mais en fait ça on pouvait te le montrer autrement. À partir du moment où on commence à atteindre ce troisième acte, bon moi je me doutais de toute façon de la manière, on la voit qui marche à un moment avec un beau plan panoramique, voilà, où on la voit elle avance tranquillement. Et du coup je me suis dit ok, de toute façon vu le rythme du film, tant qu'elle n'a pas quitté le champ, la caméra ne coupera pas. Donc je me suis dit on va la regarder faire ses tout petits pas pendant 2 minutes 30, 3 minutes facile. C'était le cas, sauf qu'une fois qu'elle arrive au bout du champ, la caméra a pivoté. Et donc là il y a un autre champ qui arrivait et elle a continué à marcher. Et je me suis dit, ok, ça va être très long. On a compris qu'elle n'allait pas très vite, qu'elle avait des problèmes de jambes, qu'elle n'était plus en grande forme. On pouvait nous le montrer autrement. Bon, après, Certes, ça suggère plein de choses, la lenteur du rythme, enfin la lenteur du récit.
Moi, je veux bien, mais qu'on nous le fasse sur le pied d'une danseuse qui est en train de préparer la chorégraphie, je veux bien, sur la vieille dame qui traverse la rue pendant un quart d'heure, parce que si on met bout à bout tous les morceaux où elle marche, il y en a pour un quart d'heure. Hein. On a saisi, quoi. Alors, je ne l'ai pas précisé, prix de la mise en scène à Locarno, bon, après, c'est filer le prix de la mise en scène à un film sur une chorégraphie, autant filer le prix du scénario à un mec en train d'écrire un bouquin.
C'est pas parce que tu veux faire un film sur la beauté, la grâce, la compréhension, le fait d'être touché, que t'es obligé de faire un film chiant. Mais tu peux faire un film tout à fait lent, c'est pas un problème, parce que t'as envie de montrer le temps qui passe, la façon dont s'écoulent les jours, la manière dont les personnages ressentent aussi le vide autour d'eux, parce qu'ils se sentent seuls, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'était pénible, là, c'était lourd, pénible, c'était long, et tu te détaches du récit, tu peux plus regarder ça au bout d'une demi-heure, t'en as déjà assez, et c'est dommage.
Mais quel récit ?
Bah, c'est un récit, il y a un récit, non.
Non, mais voilà. Et alors ça aussi, en plus, il n'y a même pas de récompense, parce qu'on nous filme les préparatifs de la danse, le making-of, hein, en gros, et on ne verra pas le spectacle, on ne verra pas la danse finale.
C'est ce que je veux dire, c'est que le film veut montrer, veut pas montrer, enfin, te dire qu'en fait, la danse n'est pas importante, ce qui est important, c'est ce que l'on ressent en la voyant. D'accord, mais une fois de plus... On était déjà arrivé à un stade où ça nous avait beaucoup trop assourdi, beaucoup trop alourdi pour pouvoir apprécier cette façon de voir les choses, en fait, qui n'est pas inintéressante, mais qui là n'est pas montrée de manière passionnante, quoi.
Là, je vois sur la brochure qu'on nous a filée à l'entrée, littéralement, un ange passe, oui, peut-être plusieurs, ouais, c'est le cas, mais c'est pas un compliment, quoi. C'est vraiment malaise. Donc, ça se voulait sur l'universalité de la danse et sur l'universalité du deuil et de ce chagrin, finalement, et on est plus sur l'universalité de l'ennui.
I think something's wrong with that dress.
Don't tell me you're scared of a dress.
The dog ripped it to pieces.
Spanky spanking you almost.
Such a pretty dress.
Anything nice in the sales?
Just a dress.
Elle te va super bien, cette robe, Thierry.
Tu trouves?
Ouais, par contre, fais gaffe, t'as une rougeur, là. Une fabrique de Peter Strickland. Un film
Peter?
D'une heure...
Hmm? Tu dis Peter?
Peter.
Peter.
Peter et Steven.
Très bien. Ça m'a choqué, excuse-moi. Vas-y.
C'est la classe américaine, mon ami. Peter. Ah, on dit Peter. On dit Peter. De Peter Strickland, un film du 1958 qui sort le 20 novembre 2019. L'histoire d'une robe maudite. On peut le résumer comme ça.
On peut le résumer comme ça. Heureusement qu'il y a autre chose. Sinon, on se retrouverait face à Rubber 2. Maintenant, c'est une robe.
Rubberita.
Quand tu commences le film, enfin, ça commence par des espèces de juste montage de plans figés du film, relativement flou, très étrange, avec une musique très lourde, très austère. Et là, moi, j'ai repéré des noms dans les crédits. J'ai vu qu'il y avait Ben Wheatley qui était à la production, c'est un mec qui a fait Kill List, qui a fait I Rise, qui sont des films avec une ambiance très particulière aussi. Et j'ai vu que le groupe qui s'appelle la BO, je vais vous faire la traduction, s'appelle Caverne d'Antimatière. Et je me suis dit, là, tu vois, on va être face à un truc super particulier, et c'était le cas.
On est sur quelque chose de très particulier, sur une grosse esthétique giallo, avec une ambiance très mystérieuse, très lancinante un peu. D'ailleurs, c'est un film essentiellement d'ambiance, n'est-ce pas, Thierry ?
Non, mais c'est ça, c'est très ambiancé, et ça, sur le coup, c'est très réussi. Donc, l'Asie qui fait penser à du Tangerine Dream, donc ça rappelle aussi toutes ces sonorités-là. C'est très, très, très léché dans l'image. Donc, du coup, sur ce point-là, pour te plonger dans le truc, il y a... aucun souci, quoi. Alors moi, ça m'a fait marrer parce que chaque fois qu'il y avait tous les problèmes du coup avec la robe, on va y venir, j'avais l'impression que ça allait partir dans une sorte de chaos. Sauf que je me disais, c'est un chaos extrêmement organisé parce qu'il y a un travail sur la symétrie, mais qui est constant. Chaque plan est symétrique jusqu'au moment où quand on te montre des mannequins, par exemple, à travers une vitre, ce qui montre la symétrie, c'est le sillon mammaire, quoi. Je veux dire, tout est centré, tout est toujours très ordonné. Donc tu te dis, oh là, c'est du chaos organisé. C'est spécial.
Oui, alors on va commencer le film avec Sheila, qui tombe sur une robe assez fascinante,
dans un magasin. Elle hésite un peu à l'acheter, mais la vendeuse réussit à la convaincre. Une vendeuse un peu inquiétante d'ailleurs, habillée avec des robes à voilure, à dentelle.
C'est des robes de l'époque victorienne, quoi. C'est un...
Oui, ce qui est très étrange. Même si on a une esthétique 70, ça reste très étrange.
Bah, c'est un magasin qui tente d'avoir une espèce d'imagerie très précise. Donc tu le vois déjà, voilà, avec la vendeuse. Bah, la vendeuse, d'ailleurs, porte une perruque, même de l'époque victorienne, parce qu'elle est totalement chauve. Et c'est d'ailleurs très particulier quand elle arrive la perruque, parce que même si tu te doutes que c'est pas ses cheveux, c'est vrai que... Ça crée toujours un moment très bizarre.
Un peu comme un mannequin d'ailleurs.
Un peu comme un mannequin, ouais. Et bah, d'ailleurs, j'ai plus d'empathie envers ces mannequins qu'envers ces clients. Je veux dire, à partir de là, tu vois où tu te places. Donc oui, en effet, des robes de l'époque victorienne. Un dialecte très particulier, c'est très verbeux, ça se veut très soutenu.
Comme... Très châtié.
Hein. Ouais, très châtié, très soutenu. Et ça en joue énormément.
Très sophistiqué.
Et alors après, vraiment, tout le magasin est fondé sur cette esthétique. Toutes les vendeuses sont comme ça. Il y a le patron qu'on n'entend jamais, qui parle toujours à voix très basse ou bon, c'est pas trop ce qu'il veut. Et encore, est-ce que c'est le patron? Je sais pas tant que ça, quoi. Enfin, oui, il y a des chances, mais...
Bah, c'est le vieux, quand il dit un truc, on l'écoute. Donc, a priori, c'est peut-être le patron.
Et surtout, moi, c'est le film s'entame sur une publicité de ce magasin. Et alors, c'est particulier, quoi. Comment dire,
enfin, on voudrait te laver le cerveau, on ferait pas autre chose. Bon, on te mettrait devant le truc avec des scotch sur les paupières.
C'est ça, il y a une musique qui doit durer environ 20 secondes en boucle. Et t'as des plans, des plans larges sur justement l'intégralité de ces vendeuses qui se taisent et qui te font juste des signes de la main en mode « viens ». Viens, viens, et avec écrit, tu sais, solde, solde, solde. Et t'es là, tu fais, oh putain,
c'est quoi cet endroit?
Tu te sens attiré, il y a même temps, tu dis, putain, c'est quoi ce traquenard, quoi?
Ah bah, à la fois, enfin, tu te sentirais, moi je me sentirais pas attiré. Donc c'est vrai qu'après, quand je vois la personne dans le magasin, je me dis, ah merde, elle y a pas coupé, mais moi j'aurais pas envie d'y aller. Hein,
oui, mais ça fait très rituel de sorcière ou autre, tu vois.
Oui, puis après, si tu connais le magasin, si c'est leur délire, tu te dis, ils ont juste poussé leur délire, quoi, donc tu peux aussi croire à un truc. Correct, même si de toute façon, dès que tu es à l'intérieur de ce truc, vu la façon dont les vendeuses te font du forcing pour te vendre les choses, te parlent, Anna, elle a beau lui dire qu'elle n'est pas intéressée, elle revient la voir en lui disant non, mais il faut que tu mettes ton truc pour ci, pour ça. Elle prend le nom de ton rendez-vous pour te dire à quel point telle personne te trouverait belle là-dedans. Enfin, c'est très forcé. Hein. Et justement, ouais, t'es totalement, une fois que tu es là-dedans, tu es pris au piège. C'est fini, tu es obligé de prendre quelque chose parce qu'on t'a, comment dire, conditionné à ça.
Oui, il y a une pression permanente, il y a un malaise tout le temps, il y a le malaise dans le magasin, il y a la pression consumériste, il y a un malaise au boulot, il y a la pression du boulot où ils observent jusqu'à tes postes pipi, où ils vont tout te faire « Ah, au fait, tu dors mal en ce moment, j'espère parce qu'il y avait machin, elle se drogue, mais je veux pas dire que tu te drogues, mais quand même, une grosse pression comme ça. » Il y a aussi un malaise dans les rancards, le premier rancard qu'elle se tape avec la fameuse robe, c'est juste une horreur.
T'as quand même le gars qui a, sur l'annonce, il avait marqué qu'il lui, enfin non, au téléphone, je lui avais dit qu'il serait avec une rose qui serait pour elle. Le mec, il arrive, il ouvre un attaché-caisse, il lui sort une rose qui est déglinguée, il lui donne, tiens, comme promis, la rose. Et après, il lui parle pas.
Et en plus, en ouvrant l'attaché-caisse, il le pose sur la table, il l'ouvre devant elle, du coup, il l'efface du cadre. Ouais. Enfin, c'est vraiment affreux. Et le comble du romantisme, le premier truc qu'il lui dit, ah, au fait, j'ai un coupon, si on partage un pudding, on a une réduction. C'est affreux.
C'est clair. Mais après, cela dit, tous les rencarts se passent pas comme ça. Heureusement. Mais bon, enfin, ça commence quand même par le bon de réduction. Mais il peut y avoir un peu de romantisme derrière.
Voilà. Bien. Donc oui, dans tout cette ambiance pesante, il y a quand même des respirations avec un peu d'humour, mine de rien. Même si on a une grosse angoisse, on a cette robe, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on sent qu'il y a un truc malsain. Mine de rien, alors c'est énormément d'idées, on l'a dit, de mise en scène ou autre, mais par contre, il y a des coupures, et en fait, c'est essentiellement des idées, j'ai l'impression, qui sont exposées. Donc ça nous pose une ambiance, ça nous pose beaucoup d'idées, ça c'est très plaisant. Mais après, j'ai l'impression que ça ne sait pas trop où aller. Ça nous expose des situations. Alors. Ça nous expose des choses, mais après, il y a un moment, j'ai senti que le film, il fait quand même ses deux heures. J'ai senti que la deuxième moitié, il y a des choses intéressantes, mais c'est peut-être un peu plus poussif et ça manque peut-être de cohérence, j'ai l'impression.
Je pense qu'on aurait pu réduire pas mal le film, en effet, surtout dans sa seconde partie, où même si c'est intéressant, elle reproduit quasiment tous les schémas de la première. Donc, ils n'étaient pas essentiels, on pouvait tout à fait les comprendre en les évoquant seulement. Après, au contraire, enfin là, maintenant qu'on y pense, parce que c'est vrai qu'en sortant de la salle, t'es pas forcément à même de capter tout ce que le film a envie de te dire. Il faut s'y poser un petit peu. Là, tu vois, ça fait un petit moment qu'on parle, donc comment ça fait. Pour moi, le film parle de fétichisme, énormément de fétichisme, et il parle aussi du rapport au sacré, du rapport à l'objet. Du côté, tu es enfermé dans la société de consommation, dans le consumérisme, et la robe au final est malsaine, pas parce qu'on la voit maudite et qu'on la voit agir de manière à affecter de manière néfaste les personnages, mais c'est plus leur rapport à elle. Elle leur fait des rougeurs, ils la portent quand même. Chaque fois qu'elle est attaquée, bizarrement elle se reconstruit, donc on a quand même le côté ils s'y attachent, ils veulent la garder, et à un moment Sheila veut la rendre, on lui dit non, elle la laisse même pas sur le comptoir, elle la reprend. Et après, toutes ces personnes-là sont enfermées, continuent à la construire, continuent à l'alimenter. Donc au final, tout ce qui reste, c'est cette espèce d'objet de consommation que tout le monde désire, que tout le monde veut. Même quand les vendeuses le vendent, elles leur disent « ça, c'est un objet de vente merveilleux ». Enfin, ils disent clairement « cet objet a été créé parce qu'il doit être vendu ». Il y a le patron qui s'inquiète quand les gens...
offrir une jouissance, un plaisir particulier au moment de la vente, en fait.
Ouais, c'est ça. On a le patron qui s'inquiète du fait que Sheila ne veuille pas consommer, en lui disant littéralement « vous ne voulez pas participer à la grande fête du consumérisme ». Et on a des émeutes dans le magasin par rapport à des personnes qui veulent être servies avant les autres. Donc on a même l'image du Black Friday, enfin, qui peut être plus constante quand il y a les soldes, ou quand ils ouvrent le magasin, les gens se rendent dedans, commencent à se battre pour s'arracher les vêtements. Et tout est toujours orchestré par cette robe qui observe, qui est dans le magasin bizarrement quand ça se passe, et qui va accélérer les choses, quoi.
C'est bien que tu en parles, parce qu'il y a un truc qui me perd un peu, moi, dans le montage, c'est-à-dire qu'on voit justement la vendeuse prendre un ascenseur qui la fait descendre. Or, quand elle regarde la fenêtre, on voit les gens se presser aux portes du magasin, elle est au-dessus, et il y a un problème. Alors, peut-être que la désorientation fait partie du montage, fait partie de l'esprit du film, et on est désorienté. Enfin, moi, j'avoue que j'ai été perdu par moments dans la compréhension, le montage ne m'a pas aidé.
Alors après, je pense qu'il y a énormément de symbolisme aussi, oui. Et que là, comme ça, avec une vision, et en discutant maintenant, on n'est pas forcément à même de tout capter, hein, parce que c'est... parce qu'il y a beaucoup de complexité.
Oui, en plus, des fois, il y a des montages alternés. On est sur deux lieux en même temps, et on a la robe aussi qui est au milieu, et on ne sait pas dans quel lieu elle est, surtout sur la fin.
Mais je suis même pas certain qu'il y ait qu'une robe, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression que cette robe se reconstruit à chaque fois qu'ils ont besoin de recréer du chaos.
Oui, mais c'est la même, parce qu'elle revient au même endroit. Mm. C'est-à-dire qu'elle a son propre esprit, quoi.
Elle cherche à revenir à chaque fois dans le magasin, quoi.
Voilà. Non, mais fait, oui. Fait, au magasin, je sais pas si elle cherche à y revenir, mais elle cherche un nouvel hôte. Elle fait le mal. Elle fait pourrir les fruits. Elle étouffe les canaries. Elle fait des rougeurs. C'est le mal.
C'est une curiosité. Je le conseille quand même, hein, parce que c'est une curiosité hyper intéressante à voir.
Non, alors oui, par contre, je dis que j'ai été perdu 2-3 fois. Par contre, ça reste un objet fascinant, quoi. Cinéma, c'est très, très,
alors,
très
après,
intéressant.
Après, il faut y aller vraiment préparé, quoi. C'est pas... on pourrait comprendre que les gens n'apprécient pas, quoi. Je sais même pas si j'ai apprécié, enfin, je sais pas si j'aime vraiment tout ce que ça m'a montré, mais en tout cas, ça m'a fasciné, comme tu dis.
C'est ça. Mais non, mais ça laisse pas indifférent. Comme cette robe, en fait. Il y a une certaine fascination. Bien. Ben, une fabrique nous voit comme un gant.
Papa, maman, vous n'êtes pas vieux.
Ah oui, non. Ça c'est vrai.
Vous êtes juste jeune depuis plus longtemps que les autres.
Ah oui, c'est bien.
Davy va te prendre pour une auxiliaire d'éducation.
Si tu dis oui une fois, c'est mercredi, tous les jours.
Donne-moi un bien tour de manège.
Ah ben c'est pas des tours, c'est des heures.
Une semaine marquée par le drame, hein. Après les Misérables avec le drame social dans les banlieues, après les Éblouis, le drame des sectes, ici on a le drame de la retraite, la tragédie même de la retraite et la tragédie sociale de la mère qui se bat pour ses enfants, parce qu'on sort de Joyeuses Retraites de Fabrice Braque avec Thierry Lhermitte, Michel Larocque, Nicole Ferroni, un film terrifiant, j'en ai pleuré de drame. On avait Thierry Lhermitte et Michel Larocque qui sont jeunes retraités et qui, justement, pour ne pas avoir à garder leurs petits-enfants, simulent la sénilité, simulent la vieillesse. Et à côté de ça, on a le combat de leurs enfants, on a le combat de Nicole Ferroni qui se bat pour travailler et garder ses enfants en même temps avec un mari dépensier. On a une lutte, on voit Nicole Ferroni qui lutte et on sent la douleur dans son regard à chaque instant.
Mais Thomas. Ça, c'était une comédie.
Non, mais dans une comédie, les gens rient.
Il y avait des gens qui riaient dans la salle. Pas beaucoup, mais il y en avait.
Ils pleuraient pas ?
Ah bah nous, en tout cas, oui.
Oh putain. Enfin, moi, c'était insoutenable. On est parti au bout de 35 minutes. C'est pas mal.
C'est plus que le genre de ma vie.
Voilà, donc les warriors qui ont essayé, qui ont tenté d'aller voir ça, les inconscients, ben, y a Thierry et Karl aussi également qui est toujours là. Il a perdu l'usage de la parole. Je crois qu'on l'a perdu.
On avait vu Les Misérables juste avant, c'était bien.
C'est ouais, non mais c'est ça. Tu sais, c'est le grand écart du cinéma français. C'est... Il y a un film qui est fait pour voir au cinéma, je crois qu'il y a un message qui veut dire des trucs, et puis il y en a un qui est là juste pour remplir les grilles de programme.
Et devine lequel était le plus subventionné des deux.
Oh putain, ça me ferait trop mal quoi.
Ah si, c'est sûr, c'est sûr.
En même temps, dans Joyeuse Retraite, il y a un chien.
Mais non mais Courtrage-mé, c'est un collectif, ils ont fait ça quasiment eux-mêmes avec ce qu'ils ont pu. Là, il y avait plusieurs boîtes de prod quoi.
Ouais, fin, bon bref, l'enregistrement, on est à 2 minutes 40. Ouais, c'est beaucoup trop. Voilà, bon, c'est de la merde. Est-ce qu'il faut vraiment en dire plus?
C'est putain de moche. Non, les comédies françaises sont pas belles, mais là, c'est vraiment activement moche. C'est incroyable.
Ouais, les plans dentistes sur Thierry Lhermitte, waouh quoi. T'as l'impression qu'ils ont mis, tu sais, quelque chose dans le miroir réfléchissant où tu dois regarder là, dans la loupe, la caméra était là quoi. C'était irregardable. Et tout du long, hein, toutes les tentatives de caméra sont dégueulasses.
On aurait dit une version longue des programmes courts entre pubs, tu sais, les genre les voisins ou les trucs de couple, là, les scènes de ménage ou ce truc comme ça, mais en version longue, c'est... Oh, c'était... Et il y a Nicole Ferroni qui se débat, quoi, et on sent qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de relever la barque, mais...
Ouais, non, mais en même temps, à un moment, alors, il y a un setup de merde où elle commence à parler avec la directrice de son école... Et bon, à la fin de la scène, ça mène une blague qui est nulle à chier, où c'est juste, vas-y Nicole, fais un monologue de 3 minutes, improvise, débat-toi comme à la radio, il en sortira bien quelque chose. Eh ben non.
Hélas, ouais, puis elle est passée, personne n'est servi par la réal, enfin, puis le bon vieux sketch du, non, le chien ne dort pas dans la chambre, évidemment, il finit sur le lit. Bon, c'était la goutte de trop, bon, bref.
Je pense au truc avec Stéphane Plaza qui était sorti cette année. Je commence à me demander vraiment si on n'a pas un budget. Enfin, tu sais, je sais pas, ces petits téléfilms de M6 qui tirent à pile ou face et se disent « Allez, celui-là, on le tente sur grand écran, ça va être drôle. »
Surtout que la 6 va devoir attendre 6 mois pour le diffuser, ce truc, quoi.
La chronologie des médias, ils se sont fait baiser eux-mêmes, quoi.
Quel est l'intérêt, tu le veux, en téléfilm et tout, puis voilà. Oh. Bon, Joyeuse Retraite, ouais, direct l'hospice, hein, ne passez pas par la case départ, hein, ne prenez pas vos 20 000 anciens francs.
C'est un bon plaidoyer pour l'euthanasie, on n'est pas obligé de la garder.
Ça là, je suis pour.
Ouh. La semaine se termine, riche en émotions. Qu'est-ce qu'on retient? Bon, ben, Les Misérables, évidemment.
C'est vrai que... Étant donné que je l'ai déjà vu il y a 2 mois, j'étais limite en train de me dire il faut que je choisisse un autre film que Les Misérables. Mais non, c'est Les Misérables sans aucun conteste. Et aller derrière qui le talonne plutôt pas mal, pour moi, ce serait Une Fabrique.
Je crois qu'avec Les Misérables, on a un film pour concurrencer Parasite dans le top de fin d'année.
Tellement. Enfin, pour moi, pour l'instant, faudrait peut-être que je revoie Parasite quand même. Quoi que je l'ai vu pas mal de fois. Pour moi, il le dépasse bien. Mais plus pour une question de ressenti personnel que de réelle qualité filmique.
Je sais pas, après quand on va faire le top, ça sera le mois prochain. Ça sera un épisode de fin d'année pour les fêtes. Donc ça sera redescendu un peu, on aura le temps de digérer et de voir un peu en relief. Mais gros concurrent.
Alors bah, je suis pas sûr parce que je te signale que le mois prochain, il y a quand même Sam. Non, plus sérieusement, il y a aussi The Lighthouse qui arrive. Et il y a peut-être des chances, parce que Les Misérables, je me suis pas trompé sur vos goûts. Il y a peut-être des chances que The Lighthouse, ça monte très haut aussi.
On va se taper, alors si tout va bien... Si le planning se passe bien, on enregistrera cet épisode juste après avoir vu The Lighthouse et Star Wars 9. Donc, est-ce que ça pèsera sur le classement de fin d'année?
Star Wars 9, sûrement pas. Même si je pense que je l'apprécierais énormément, mais pas de là à le mettre là.
Ouais, je te vois sauter rien que pour la bande-annonce, tu sautes dans tous les sens.
Et pas jamais de là à le mettre dans un top, parce que j'ai vu des choses bien plus cinématographiques, je pense. Même si j'aime beaucoup J.J. Abrams, c'est son travail, hein, et je pense que ça va être sympa. Mais
The Lighthouse... À voir, à voir. C'était Certains la Macho. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram à Clac Podcast, CLAAC. Clac. abonnez-vous sur votre application de podcast préférée pour nous retrouver dès la semaine prochaine. Et pour nous aider, vous pouvez également nous noter, mettre des étoiles, des 5 étoiles et plus, si affinité, même des commentaires pour faire découvrir l'émission à d'autres auditeurs. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Allez, direction Montfermeil maintenant. Pour de vrai. Enfin, de faux, parce que c'est du cinéma, mais pour de vrai. Enfin, bon, bref. Parce qu'en fait, tu comprends, c'est pas du vrai. C'est, les gens, ils meurent pas vraiment. Ils sont pas vraiment. C'est pas des vrais cocktails Molotov qui sont lancés.
Ah, il faut pas, surtout pas qu'on dise ça dans le podcast, parce que moi, j'ai quand même fait croire à un mec pendant 10 jours que ça existait vraiment tout ça. Donc,
Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais on le dit dans le.